Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je me nomme Mario Cardinal et à la co-animation, je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Guy.
Salut Mario, ça va bien?
Oui, très bien. C'est la canicule au Québec. Tu vas me dire encore une fois, Mario, tu commences en parlant dans de la température.
Puis là, nos amis belges, là, nos auditeurs en Belgique là, vont
On va dire, on n'en a rien à foutre de la température en Amérique du Nord.
C'est en plein, ça.
Mais vraiment, mais ça doit être vrai aussi en Europe, là. Nous, en tout cas, on a des records de température comme on n'a jamais eu, puis pas une canicule, mais là, je pense que c'est la troisième de l'été. On s'en est pour en avoir peut-être 4-5, donc... ceux qui viendraient me voir pour m'ostiner qu'il n'y a pas de réchauffement de la planète... En tout cas, je vais dire, regarde autour de toi. Il fait chaud. Mais on est bien à l'air climatisé, puis c'est ce qui est parfait. Moi, je suis à l'air climatisé et je soupçonne que toi-même aussi.
La clim, oui.
La clim.
Oui.
Puis notre invité, Louis-David Noël, à qui on va dire bonjour tout de suite, mais je vais revenir à toi, Guy, dans deux secondes. Bonjour, Louis-David.
Bonjour.
Hey, salut.
T'es chez toi, mais j'imagine que t'as la clim, t'es pas pris à 35 degrés Celsius dans la
maison.
Non,
c'est bon, je devrais voir pour pas m'évanouir pendant notre enregistrement.
Donc, on va revenir avec toi. David, nous, Louis-David, on veut discuter aujourd'hui des OKR. Donc, pour nos auditeurs qui disent qu'est-ce que c'est les OKR, reste avec nous quelques secondes, on va tout vous expliquer ça. Mais moi, ce que j'aimerais demander à Guy, c'est qu'est-ce que tu fais de bon ces jours-ci? T'as toujours des projets ou des choses là, qui m'intéressent, donc
je focus évidemment là sur mes formations. Là. J'ai une formation de 3 jours sur Docker et Kubernetes sur Azure. Puis là, je suis en train de faire une version 2 jours que je vais mettre en ligne cette semaine. Puis mm-hmm. C'est pour. En fait, j'ai une demande finalement pour des gens qui déjà connaîtraient Docker là, puis ils veulent pas se taper la demi-journée là d'introduction à Docker là. Donc j'ai coupé finalement dans le matériel un petit peu, puis ça donne une formation de 2 jours pour les gens qui connaissent Docker mais les containers, mais qui n'ont jamais travaillé avec Kubernetes puis Kubernetes sur Azure. Donc je vais mettre ça en ligne cette semaine. Ça va être une autre offre pour dans mon catalogue.
Tu vois, c'est de la formation que tu peux donner justement à distance là, avec Zoom.
Ah ben en fait, c'est seulement à distance. Hein. C'est il n'y a plus de formation là en salle ou en entreprise. Là. C'est, mm-hmm. c'est un domaine d'affaires qui a été impacté à 100% là par la COVID, là, par la pandémie. Là. Donc, mais je dois t'avouer que j'adore donner des formations en ligne. C'est pas pareil. Les challenges sont différents. Le challenge, c'est de gager là, notre audience, hein, mm-hmm. les gens dans la salle, parce que quand on est en classe. On peut voir les expressions au niveau des visages, dire oups, je pense qu'il y a un problème, on n'a pas compris ici, ou des fois juste le fait de hocher la tête, là, ok, tout le monde a compris, parfait, on peut passer. Fait que ça, c'est un autre challenge. En fait, qu'on se trouve des trucs avec Zoom ou avec Teams là, pour sonder notre auditoire là, finalement. Puis on se débrouille.
Donc, on voit que tu as du plaisir avec tes formations. Moi, je vais prendre 10 secondes pour juste dire à nos auditeurs de rester à l'écoute. Là. On arrive presque, nous, à être en mesure là, de pouvoir lancer notre produit bêta. Donc, je vais en reparler là, dans une prochaine émission, là, mais je vais inviter nos auditeurs qui s'intéresseraient à venir jeter un coup d'œil sur le produit. Puis, c'est une longue aventure. Ça fait des années qu'on travaille là-dessus, donc...
J'ai bien hâte de voir ça, en tout cas.
Ouais, donc, ben, peut-être que je vais m'assurer, Guy, que tu jettes un coup d'œil. Donc, tu pourras dire aux auditeurs, dire, allez pas voir ça, c'est de la merde, ça vaut rien.
Ben oui.
Ben écoute, ça se peut, hein, on sera pas le premier produit, donc écoute, il y a quoi, des milliers de personnes qui lancent des produits, puis sont jamais capables de trouver ce qu'on appelle un product market fit, là, c'est-à-dire un fit entre le produit et un marché. Donc nous, on est à cette étape-là là, de confirmer là, qu'il y a vraiment des acheteurs qui sont prêts à s'intéresser à notre produit. On arrive là, on va arriver là à l'automne, donc c'est intéressant là, le cheminement qu'on fait.
Bien de voir ça.
Ouais, on met le but là, c'est pas faire un podcast sur nous autres, c'est non, parler avec Louis David Noël. Bonjour, rebonjour Louis David.
Rebonjour.
Louis David, bon nous c'est toujours la même formule. On veut quand même permettre aux nos auditeurs d'apprendre à connaître aussi nos invités, pas juste le sujet. Aujourd'hui, on veut éduquer un peu les informaticiens qui écoutent notre podcast sur qu'est-ce que c'est les OKR. Mais en premier lieu, on parlait d'un peu de toi. Présentement, là, tu travailles chez N-Media, donc peut-être nous brosser le portrait de qu'est-ce que tu as fait, ton parcours, puis peut-être en terminant, nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est N-Media.
Oui, parfait. Donc, ben mon parcours, en fait, je viens d'un background en UX principalement, donc en expérience utilisateur puis en design d'interaction. Donc, bon, à travers mon parcours, ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans le web. Bon, j'ai commencé dans des agences qui étaient un peu plus traditionnelles à Montréal il y a plusieurs années, qui, justement, il y a une quinzaine d'années, qui voulaient transiter vers le numérique, donc de mettre en place certaines méthodologies là-dedans, de mettre en place certains processus pour pouvoir créer du web et plus juste du papier, exemple, ou du print à cette époque-là. Puis, à travers le temps, ben, j'allais justement me spécialiser en UX, puis j'enseignais un petit peu à l'Université Laval.
Tu as une maîtrise même, je pense.
Maîtrise du design en design d'interaction de l'Université Laval. Puis, à travers tout ça, ben justement, j'ai enseigné pendant cette époque-là. Puis, j'ai toujours un goût pour le coaching et l'enseignement. Donc, à travers ça, ben je me suis toujours développé un peu là-dedans. En arrivant chez, justement, c'était ça l'objectif d'arriver chez N-Media qui, à cette époque-là, N-Media va avoir 20 ans cette année. À cette époque-là, N-Media était surtout une boîte d'informaticiens, en fait, de la programmation principalement. Moi, j'arrivais pour aller chercher justement une expertise un peu plus élargie et complémentaire qui était l'aspect UX, bon, le design et tout ça, et le volet commercialisation en même temps qui était plus publicitaire et ce genre de choses-là. Donc, N-Media, c'est pour mission de fonds de service conseil principalement, puis de l'accompagnement stratégique avec les entreprises, principalement dans le domaine services financiers et de l'assurance. Donc, on fait donc développement sur mesure, mais aussi du coaching en entreprise, que ce soit dans l'implémentation de nouvelles technologies ou de nouvelles écosystèmes technologiques, que ce soit du Dynamics CRM, par exemple. On est bien sûr affilié à Microsoft beaucoup de notre côté. Donc, on va aller les aider à faire l'implémentation de certaines technologies dans ce cadre-là. Puis, on va aussi faire l'accompagnement stratégique d'un point de vue de la commercialisation des entreprises, que ce soit en B2B ou en B2C. Donc, que ce soit des approches, là, marketing automation, par exemple, publicité en ligne, bon, stratégie médias sociaux et tout ça. Donc, développement sur mesure et commercialisation.
C'est une boîte qui est basée dans la belle ville de Drummondville, je crois. Hein? Donc, on...
Oui, tout à fait.
Dans la province de Québec, mais qui est pas vraiment Montréal au Québec, mais qui est plus c'est la belle ville parce que souvent il y a des gens qui s'amusent. C'est une ville vraiment à mi-chemin entre Montréal et Québec où que beaucoup de gens vont dire péjorativement, c'est un endroit où on arrête quand on fait en voiture. Puis, oui. Mais à cause de sa position, c'est aussi un pôle économique. Il y a beaucoup d'entreprises à Drummondville parce que vous êtes proche des États-Unis pour l'exportation.
Oui, ben tout à fait. On est très bien placé. Justement, ça nous permet de servir beaucoup la clientèle de Québec, la clientèle de Montréal, mais aussi, bon, on a accès à différents marchés. On a des clients aujourd'hui aux États-Unis dans le domaine de l'assurance. On en a aussi, bon, Toronto, Vancouver. Donc, à la fin des fins, qu'on soit à Drummondville ou à plein centre de Montréal, à la fin des fins, c'est plus simple aujourd'hui d'être positionné où on est. On a accès, dans le fond, à ces différents marchés-là, par d'autres moyens, et même pour aller au Nouveau-Brunswick, en fait, c'est plus simple aussi où on est positionné avec les vols, avec des petites compagnies aériennes qu'on encourage localement, justement.
Mm-hmm. Puis, tu disais que vous utilisez beaucoup des technologies Microsoft. Nous, on a été mis en contact avec toi, justement, par l'entremise d'Alexandre Brisebois, qui est un bon ami. qui travaille chez Microsoft au bureau de Montréal, puis qu'à un moment donné, il nous a dit, hey, faut vous parler avec Louis David, tout ce qui touche le changement organisationnel, les OKR, c'est un sujet qui n'est pas juste à la mode, c'est un sujet important, puis moi, j'étais autant Guy que moi, on s'est dit oui, oui, oui. Ouais. C'est comme ça qu'on, donc on remercie encore une fois Alexandre de nous avoir mis en contact avec votre boîte. Quand on discutait un peu plus tôt, t'es un des propriétaires de chez Nmedia, si je me trompe.
Exactement, on est trois propriétaires, puis en fait, moi je suis propriétaire depuis 7 ans, environ 8 ans, puis...
T'as commencé comme employé, puis t'as fini par, un peu comme le monsieur qui avait les rasoirs électriques, t'as finalement acheté la compagnie...
Ben oui, mais en fait, c'est la confiance beaucoup de ces gens-là, mais l'objectif, justement, moi, je suis arrivé avec une mentalité aussi de diversification dans notre approche, puis dans les services qu'on pouvait offrir, puis cette offre-là est devenue assez populaire, puis complémentaire à ce qu'on faisait, puis c'est devenu un grand vecteur de croissance pour nous à travers les années. Donc aujourd'hui, la moitié de la boîte, en fait, fait un volet de commercialisation, si on veut, puis d'expérience utilisateur. Et l'autre moitié fait du développement sur mesure, on est rendu 80 environ. Donc, à travers ça, ben, ça m'a permis, moi, de devenir un des trois associés et de pouvoir participer à la croissance de cette entreprise-là aujourd'hui. Et d'implémenter justement des nouvelles méthodologies qui nous permettent de driver un petit peu l'aliment et le focus. Parce que justement, comme vous savez peut-être, quand on est en forte croissance après plusieurs années et ça se fait avec certains défis, certains soubresauts, ben on se doit d'avoir... une capacité d'aligner et de focusser les différentes initiatives qui partent souvent en tous sens si on n'arrive pas à se cadrer un petit peu.
Mm-hmm. Donc toi, je lis entre les lignes, là, mais tu comprends bien, tu as été comme un vecteur de changement quand tu t'es joint à Nmedia, puis à travers les années, tu as amené la compagnie à se... à pas juste faire ce que ça va faire, mais faire de nouveaux domaines d'expertise. Puis est-ce que c'est à cause de ces défis-là de changement organisationnel que tu t'es intéressé au fameux OKR? Parce que là, on va essayer là, dans les prochains 30 secondes, la prochaine minute, là, d'expliquer qu'est-ce que c'est OKR à 30 000 pieds d'altitude. Donc, est-ce que c'est comme ça que tu t'es favorisé, que les OKR sont entrés dans ta vie ou c'est un autre chemin complètement?
Ah non, c'est directement lié à ça parce que justement, quand moi je suis arrivé, puis je prends vraiment pas tout la réussite sur mes épaules, là, c'est vraiment un gros travail d'équipe, puis moi je suis vraiment juste venu compléter cette équipe-là, assurément. Mais quand je suis arrivé, on était environ 18, là, je pense, chez Nmedia, il y a 10 ans. Puis aujourd'hui, on est rendu 80. Fait que c'est sûr que ça a passé par plusieurs. Et ça s'est tout fait organiquement. Hein. On n'a pas fait d'acquisition. On a vraiment pris le temps de monter chacun des blocs par nous-mêmes là, pour s'assurer que tout était bien complémentaire et ça vient avec son lot de défis aussi, cette approche. Mais ça l'a amené justement beaucoup de défis de communication parce que, on arrive dans un domaine, dans une entreprise où tout tourne autour de la programmation puis du développement sur mesure, du code principalement. Il y a très peu d'expertise qui gravite autour. Il y a du front-end, il y a du back-end à ce moment-là, les infrastructures bien sûr. Mais d'un point de vue, là, tout ce qui est la couche un peu plus design d'interaction, expérience utilisateur, marketing, c'est tout inexistant à ce moment-là. Moi, j'arrive puis je dois un petit peu mettre en place les blocs qui vont créer ces équipes-là puis qui vont créer quelque chose de synergique. Et bien sûr, ça nous a amené à certains défis des fois. Comment est-ce qu'on s'arrime? Est-ce qu'on est tout aligné sur les mêmes objectifs? Est-ce qu'on est tout aligné sur les mêmes bénéfices en fait quand on veut mettre des choses en place, puis ça n'a pas toujours tourné aussi rond qu'on aurait voulu. Des fois c'est justement on se retrouve plusieurs mois plus tard ou à la fin de quelques projets, on se dit qu'on n'a pas bien implémenté telle expertise, n'a pas été bien tiré profit dans le projet et ainsi de suite. Donc ça nous a nécessité de s'aligner davantage, et là les OKR est devenu quelque chose à travers les recherches que j'avais fait, quelque chose d'intéressant.
Ce que tu dis est tellement vrai parce que nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, je sais pas si ça serait le cas, mais j'ai lu quelque part que si on demandait à des employés dans des organisations, un sondage à tâche, quels sont les objectifs de l'équipe d'exécutifs, c'est-à-dire l'organisation dirigeante, mais il y avait à peu près juste 7% des gens qui pouvaient clairement spécifier, dire, ah, les objectifs de la compagnie, c'est ça, 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 puis voici ce qu'on doit faire dans le prochain mois, c'est-à-dire 7 personnes sur 100. Puis je suis sûr que nos auditeurs qui nous écoutent, si on leur demandait, ben, savez-vous clairement c'est quoi les objectifs là, de votre président, là, il va aller où avec la compagnie? Puis dans un cas, par exemple, quand t'es, mettons, un programmeur, tu dis, ben moi, je programme, donc on sait programmer, faire des applications, puis quand, mettons, si on a un objectif de dire on veut développer un pôle d'expertise, mettons, UX, vers l'expérience utilisateur, ben clairement, si personne ne sait, ben personne va commencer à développer peut-être ce savoir-faire-là. Donc, c'était un peu ça qui, en premier lieu, te guidait, c'est-à-dire cette importance-là de partager votre vision d'équipe dirigeante?
Oui, clairement. Souvent, quand on parle avec justement nos équipes, ben la conversation, c'est OK, parfait, tu veux rajouter un pôle UX, exemple, dans un projet, ben what's in it for me? Comment ça change moi mon travail? Puis pourquoi je devrais le valoriser? Parce que on se cachera pas. On ajoute une nouvelle, quelqu'un qui a déjà implanté une nouvelle façon de faire dans un projet. Ben ça change pas souvent. On va pas créer nécessairement plus de délai pour le faire, puis on va pas nécessairement créer plus de temps pour s'arrimer. On va vouloir respecter un cadre de projet quand même qui est là. Le client a ses demandes, a ses besoins, a ses dates à lui aussi. Donc ça peut arriver avec énormément de friction, puis c'est ça qui est l'avantage une fois qu'on commence à parler au OKR, on commence à parler à place d'être en mode solution, je vais ajouter du UX dans mes projets ou en fait amener la solution dans notre conversation, on va parler plutôt des bénéfices qu'on va apporter. On fait ça pour augmenter la valeur perçue par notre client, on fait ça pour réduire le temps d'apprentissage de la plateforme aux employés de notre client, par exemple. Donc, en amenant les OKR, pas juste dans notre structure organisationnelle, mais aussi dans notre quotidien, dans la façon qu'on l'aborde, nos conversations ou nos projets, mais soudainement, on parle davantage de bénéfices. Puis là, le « what's in it for me » est un peu plus évident. L'autre chose qui arrive beaucoup aussi en entreprise, c'est que si on n'est pas aligné sur les mêmes objectifs et les mêmes résultats qu'on veut atteindre, ben c'est de la confusion, c'est de la démobilisation aussi qui va arriver avec les gens parce qu'ils vont juste voir l'aspect de friction que ça apporte. Donc, tout ça mis ensemble nous a amené beaucoup de réflexion à dire comment on fait pour véhiculer cette idée-là et que ça reste pas juste quelque chose qu'on a dit dans notre meeting commun avec tout le monde et que c'est quelque chose qui va perdurer à travers notre trimestre.
Donc, ça fait quelques fois qu'on dit le mot OKR. Peut-être qu'on devrait peut-être aider nos auditeurs en disant c'est quoi cet acronyme-là? Ça veut dire quoi?
Tout le monde a déjà googlé pour savoir de quoi qu'on parlait, mais on va essayer de le ramener. En effet, c'est Objective and Key Results, qui sont les grands mots, en fait, qui composent. Donc, le O pour Objective, KR pour Key Results. Donc.
On traduira en français par résultat clé ou résultat formel ou en tout cas résultat probant.
Oui, donc, tout à fait. Et pas KPI ou pas mesure de performance, justement, donc que certaines personnes vont des fois vouloir traduire par mesure de performance, mais en effet, c'est beaucoup plus résultat attendu parce qu'on parle de résultat et pas nécessairement d'un KPI lui-même.
Donc, ça commence par des objectifs.
Oui, tout à fait. Donc, ça commence par des objectifs. Le but, c'est d'aligner justement l'ensemble d'une entreprise ou l'ensemble d'un vertical dans une équipe pour que ça aligne tous sur le même objectif qui, lui, se doit d'être le plus inspirationnel possible, oui, mais aussi arrimé à travers les autres équipes. Donc, l'idée, justement, c'est un peu comme vous dites l'entrée de jeu, d'amener l'idée de la direction ou, si on veut, de l'équipe qui dirige l'entreprise ou un projet lui-même, parce qu'on peut aussi l'appliquer dans le cadre d'un projet, et de s'assurer que tous les gens qui vont être touchés vont être, de un, essayer d'atteindre les mêmes objectifs ensemble, mais aussi de s'assurer que les résultats attendus sont les mêmes et que la structure de créativité pour atteindre ces objectifs-là vont au moins servir à atteindre les mêmes mesures de performance ou les mêmes mesures de résultats, en fait.
Donc, puis qu'est-ce qui différencie l'objectif du fameux résultat attendu? Résultat attendu, est-ce que c'est la même chose qu'un objectif ou...
Non, parce qu'en fait, le bon point, en fait, l'objectif, c'est le quoi, en fait. C'est qu'est-ce qu'on veut atteindre? On veut que ce soit quelque chose qui est significatif, on veut que ce soit quelque chose qui est concret, oui, et inspirant, assurément.
Peux-tu donner un exemple d'objectif que vous êtes fixé à un moment donné là, chez N-Media?
Ben, un des bons exemples de ça, c'est justement la période de confinement. Je suis conscient que On va probablement être encore dans cette période-là au moment où ça va être diffusé, assurément. Donc, nous, ça a été une des façons de se retourner rapidement pour s'assurer qu'on allait garder le cap tout le monde ensemble. Donc, c'est un très bon cas parce que c'est une situation un peu d'urgence et c'était aussi une situation où fallait que tout le monde rame dans le même sens. Il y avait des nouvelles qui sortaient à tous les jours. On se souvient des communiqués de presse à tous les jours, les conférences de presse. Donc, il fallait s'assurer que tout le monde garde en tête les mêmes objectifs et les mêmes résultats atteints. Donc, nous, d'entrée de jeu, on a décidé le 12 mars d'arrêter nos OKR qui roulaient déjà depuis le début du trimestre pour s'en faire des nouveaux d'urgence. Et le type d'exemple que je pourrais vous donner, je vais aller ça sous la main.
Ça, on veut pas quand même, tu n'as pas besoin de donner des secrets d'entreprise, mais pour rendre ça un peu plus concret pour les auditeurs.
Parfait, j'y arrive.
Donc, les auditeurs se rendent compte que tu es devant ton ordinateur parce que.
Oui, tout à fait. Ben, je parlais plus, je le laissais en veille, mais là, il va se réveiller, puis je vais revenir là-dessus. Donc, un des exemples qu'on s'était donné, le volet qui est justement plus inspirationnel ou plus l'intention, en fait, qui va diriger l'intention et la motivation des troupes, va être l'objectif. Donc, par exemple, notre premier souhait, nous, c'était de garantir la santé et la sécurité financière des MMDI. On se souvient peut-être là, dans le contexte, le 12 mars, personne ne sait s'ils vont avoir du travail le lendemain matin, ainsi de suite. Nous, on voulait garantir une pérennité de ce qui était offert. Donc, l'objectif était garantir la santé et la sécurité financière des MMDIens. Et les objectifs, les key earnings, si on veut, les key results qu'on s'était fixés, maintenir à 100% des emplois des MMDIens et leurs revenus. Maintenir un taux relatif au stress et à la conciliation travail-famille à X pourcentage dans nos outils de mesure. Donc, nous, on a des sondages en fonds récurrents qui nous permettent d'aller faire ces captations-là. Puis, dans le fond, s'assurer, dans le fond, maintenir un taux de complicité qu'on appelle là, chez nous de X pourcent dans la communauté médiane.
C'est ça, parce que les résultats, on veut souvent qu'ils soient mesurables. Parce que donc quand tu dis X%, c'est justement parce que tu vas le mesurer, là, tu vas être capable de mettre une valeur numérique. Souvent, c'est ce qu'on veut avec les résultats.
Oui, exact. Donc, les objectifs, c'est quelque chose qui est plus inspirationnel. C'est le quoi, c'est quoi l'intention derrière qu'on veut atteindre. Tandis que les key results, eux autres, c'est un peu plus le comment. Donc, c'est quoi le bénéfice, en fait, que je m'attends à retirer si on atteint cet objectif-là?
Par exemple, donc, un des résultats probablement que vous avez énuméré, c'est garder 100% de vos employés. Puis,
exact.
Ce qu'on va se rendre compte à un moment donné, c'est qu'on ne pourra peut-être pas atteindre nos résultats comme on les a énumérés, comme là, je ne sais pas, peut-être que vous avez réussi à garder juste 90% ou 95% des employés parce que la réalité économique est telle que des fois, donc... Et puis là, à ce moment-là, la question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que c'est encore bon? Est-ce que j'ai quand même atteint mes objectifs ou je suis dans le rouge? C'est-à-dire que je suis vraiment pas là. Est-ce que vous aviez même ce genre d'indicateur-là quand vous avez pensé à vos résultats probants?
Oui, assurément, parce que c'est super important, en fait, que les KPIs soient mesurables. Sinon, un plan qui est, dans le fond, une liste de to-do qui est pas mesurable, ou justement, des fois, c'est les erreurs que les gens vont faire avec les KPIs, c'est qu'à la place d'énoncer une liste d'éléments de bénéfices mesurables, puis là, je mets l'emphase parce que c'est pas dans toutes les théories, si on veut, dans tous les livres que vous allez lire ou dans tous les cours que vous allez prendre, qu'on va parler comme ça. Moi, je trouve que c'est la façon la plus concrète de visualiser, c'est de parler de bénéfices mesurable. C'est qu'est-ce que ça me donne d'atteindre ça? C'est quoi l'objectif que je veux? Pourquoi j'atteindrais cet objectif-là, en fait?
Donc, un de vos bénéfices mesurables, c'est de garder 100% de vos employés.
Exact.
Puis ça se mesure.
Exact. Ça se mesure. Puis souvent, on va vouloir parler d'une progression. Donc là, vous avez vu, là, nous autres, on est en période de crise. On voulait maintenir quelque chose plutôt que de croître. Mais normalement, on dirait avec où on en est aujourd'hui et où on veut atteindre pour être sûr que tout le monde ait le même compréhension du défi, mais en effet, des fois, les défis sont plus complexes. Donc, c'est important d'avoir des rétros. Faut le passer vraiment en mode d'agilité, là, entre guillemets. Ceux qui connaissent l'agilité vont trouver certains points de repère là-dedans, assurément, qui sont des rituels, en fait, à toutes les semaines, on va se faire une espèce de c'est comme un sprint review, si on veut. On va faire une rétro sur ce qu'on a fait dans notre dernière semaine, dans nos deux dernières semaines, au niveau de nos KPIs, et est-ce qu'on progresse, et surtout qu'on commence à s'évaluer sur notre réelle capacité à atteindre ces objectifs-là. Normalement, on veut que les QR soient difficiles à atteindre. On veut pas ce qu'on appelle sandbagger là, dans la théorie, c'est-à-dire je vais mettre quelque chose qui est super facile, puis comme ça, je vais pouvoir dire à tout le monde que je suis super bon, puis tout est vert tout le temps.
Par exemple, imaginons qu'on dirait qu'un de nos résultats qu'on veut mesurer, c'est je vais faire évaluer mon logiciel, mettons, par deux personnes, mais que c'est hyper facile de trouver deux personnes. Donc, si les risques que tu réussisses pas sont à peu près 0%. Donc, ça, c'est pas bon parce que là, t'es trop, t'es un peu trop sur tes talons, là, t'es pas, mais non, d'un autre côté, faut pas non plus que tu sois trop agressif parce que là, ça décourage aussi les gens. Mais,
oui,
souvent, les gens savent que l'objectif, il sera peut-être pas atteint, mais c'est pas dramatique dans la mesure où mettons que c'est au lieu de dire deux, t'as dit, faut que je fasse évaluer par 20 personnes, puis qu'à la fin, t'en as fait évaluer par 17, mais ça peut être vert quand même d'avoir 17, c'est juste que, on va souvent définir, dire, ben, si entre 15 et 20, ça va être vert, entre 10 et 15, jaune, puis en bas de 10, ça serait rouge, par exemple. Est-ce que vous avez ce type d'indicateur-là chez vous aussi, ou,
Oui, assurément. Puis l'idée, c'est d'avoir... normalement, on veut atteindre 70% là, quand on met des QR qui sont très très costauds, là, plus complexes. On veut atteindre au moins 70%. Puis l'idée, c'est justement de créer quand même le sentiment de pression, là, de performance, de vouloir aller au-delà de ce qui est possible. Mais c'est normal. Faut accepter qu'on arrive un petit peu en dessous, mais on devrait pas arriver complètement en dessous parce que la motivation... Pour deux raisons, la motivation d'en prendre pour son rhume, ça c'est sûr, et la crédibilité de l'équipe. Mais aussi, ça nous donne quoi? Si tu nous donnes 20% finalement d'atteinte ou 50%, est-ce que j'ai réellement contribué, dans le fond, à l'objectif qui était précédent? Parce qu'on se souvient que l'idée, c'est d'aligner les différents niveaux des équipes ou les différents corps de métier dans une équipe. Donc, si je contribue à l'objectif de mon supérieur ou de mon patron ou de l'équipe qui me précède, mais que finalement, je score 40%, j'atteins 40% de mon objectif, que j'ai réellement aidé mon l'équipe précédente à aller atteindre sa propre objectif. Parce que l'OKR, c'est un jeu d'équipe, à la fin des fins. C'est pas un jeu individuel.
L'exemple que tu nous as donné, c'était vraiment dans un objectif. L'objectif était comme de garder les acquis, vous voulez garder, tu sais, sécuriser les employés. Donc, mais dans un monde plus normal, c'est sûr que la COVID a changé beaucoup de choses, mais on serait plus sur des objectifs de progression ou de changement. Puis c'est là où est-ce que le changement des organisations, il est hyper ardu. Puis dans quelle mesure tu dirais que le fait de fixer des objectifs, ça l'aide aux gens à accepter le changement?
Mais en fait, l'avantage beaucoup quand on parle d'objectifs et key results, c'est d'inspirer le changement, d'inspirer dans le fond l'ensemble des équipes. Si pour nous autres, souvent pourquoi on va implanter ce genre de solution là, c'est parce qu'on sent qu'il manque un petit peu de focus, l'alignement entre les différentes équipes est pas parfait, donc la contribution est on rampe pas tous exactement dans le même sens. Des fois, c'est un petit sentiment d'imputabilité aussi. On se demande si les gens suivent le bateau, est-ce qu'il contribue ou pas. Donc, il y a différents niveaux là-dedans qu'on va vouloir aller attribuer. Mais pour les individus qui, eux, font partie d'équipe, eux, souvent, ça va leur donner justement, si nous autres, on veut créer un alignement puis le communiquer, parce que les OKR doivent être communiqués et transparents à l'ensemble de l'entreprise, ça va leur donner un sens de purpose, ça va leur donner un sens de raison d'être quand ils contribuent, parce qu'ils savent à quoi ils contribuent dans l'ensemble de l'entreprise.
Donc là, vos objectifs, vous les rendez totalement publics, là. Ils sont quoi, localisés dans un wiki, ou comment vous assurez que tout le monde dans l'organisation connaît les objectifs?
Pour le moment, c'est beaucoup véhiculé à travers il y a différents logiciels qui existent sur le marché. On en essaye quelques-uns jusqu'à maintenant parce qu'on n'est pas encore 100% arrimé avec les différents outils qui existent. Mais faut pas over-complexifier ça non plus. Faut y aller avec quelque chose, les moyens, dans le fond, que ce soit un wiki justement qu'on travaille à travers, qu'on partage à travers notre Teams, ou dans certaines équipes, ça va être directement dans un chiffrier Excel, exemple, qu'on va le tenir. Donc, on n'a pas besoin d'être hyper high-tech, mais on essaie différentes technologies aujourd'hui qui peuvent soit s'arrimer avec nos autres outils de gestion à l'interne, donc pour mieux rendre le reporting, si on veut, plus simple, parce que des différentes équipes doivent reporter justement de façon régulière pour montrer qu'ils contribuent ou démontrer l'avancement, en fait, des différents objectifs au niveau de la différentes strates de l'entreprise.
OK, tu parles de reporting parce que Là, ce qu'il faut que je comprenne, c'est il arrive, mettons qu'on s'en fixait sur une base mensuelle, on va prendre mensuelle, je sais pas, vous autres, est-ce que vous travaillez, c'est aux deux semaines ou à la semaine ou au mois que vous revisez vos objectifs?
En fait, la structure, nous, on suit celle la plus standard par rapport à ça. Donc, on a des objectifs annuels. Donc, on va se rencontrer le CA, donc principalement nous autres dans notre cas, puis on va aller fixer déjà des objectifs à ce moment-là. On va s'en fixer souvent deux. On va pas nécessairement. Normalement, on veut avoir 3 à 5 objectifs maximum parce que justement, si on veut créer du focus, mais il faut arrêter de s'éparpiller, c'est ça. Donc, on va avoir 2-3 objectifs niveau business. Nous, on va essayer de rester à 2 à ce niveau-là. Puis ensuite de ça, on va aller commencer des rituels trimestriels avec les différentes équipes. Donc, le comité de direction va contribuer, va prendre les objectifs qui ont été mentionnés plus dans le fond au niveau du CA. On va les retravailler en OKR. Ensuite de ça, chaque chef de chacun des départements va aller rencontrer leurs équipes par la suite, puis ils vont aller leur faire contribuer à eux aussi à leurs propres OKR qui se seront créés à ce moment-là. Donc, ça, ce cycle-là va être trimestriel, puis on va se faire de la reddition de compte à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines selon les périodes de l'année, parce que bon, l'été, c'est un peu plus complexe des fois. Donc, on va faire des rituels hebdomadaires pour la rétro et on va les resetter à tous les trimestres.
OK, donc c'est à tous les 3 mois que vous revisez les objectifs. Tu me corrigeras si je me trompe, mais j'ai lu aussi que quand on définit un résultat mesurable, que c'est possible aussi que si en cours de route, on se rend compte que ce résultat-là a plus de bon sens, qu'on le donne, puis que l'objectif est toujours encore valable, mais qu'on va se définir un nouveau résultat mesurable. Est-ce que c'est des choses que vous avez vécues chez vous?
Oui, ben tout à fait. Je pense que la gaffe que tout le monde fait aussi, puis moi-même, je l'ai vécu, donc je peux en parler aussi. C'est quand on essaie d'implémenter ça, on lit le livre de John Doerr, puis on est tout enthousiasmé parce que c'est très très inspirationnel comme livre. Donc, on part avec ça, puis là, on le fait de façon très dogmatique. Là. On veut avoir la belle aliment, la belle pyramide tout bien fait, on veut s'assurer que personne ne sandbag rien. Bon, on essaie d'être très framé, là, tout très bien cadré là-dedans. Mais en effet, l'important, c'est de pas traîner quelque chose qui n'a plus de valeur. Le but de cette méthodologie-là, c'est de créer de la valeur rapidement, d'aligner les actions, puis de focusser sur les bonnes priorités. Mais si notre priorité, soit qu'elle est déjà atteinte parce que par miracle, puis qu'on n'avait pas sandbagué, mais quand même par miracle, on l'a atteint, tant mieux, plus rapidement, mais souvent, il ne sera plus pertinent. Puis c'est là l'exemple que je donnais tantôt avec le confinement, mais c'était plus pertinent ce qu'on avait décidé en janvier, par rapport avec ce qui arrivait là, le 12 mars, même si on était à la fin de notre cycle, c'était pas pertinent de poursuivre là-dedans avec le changement, avec toute l'insécurité que ça créait. Donc, à partir de là, pourquoi continuer à se baisser la tête puis rentrer dans quelque chose qui est plus utile? Donc, oui, on peut resetter à tout moment, à ce moment-là, pour pouvoir réaligner, dans le fond, l'entreprise et les différentes équipes.
Donc, tu as fait référence au fameux livre de John Doerr qui est un peu la Bible, le titre du livre, c'est « Measure what matters ». Puis, je fais référence au livre, moi aussi, parce que je pense que ce serait important peut-être qu'on raconte un peu la petite histoire des OKR. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est apparu la semaine dernière sur un coin de table. Il y a toute une historique qui est assez prestigieuse associée avec les OKR, d'où pourquoi beaucoup d'organisations se disent « on va les essayer ». Donc, si on revient un peu à la base, puis à ce moment-là, je pense que tu as lu le livre, donc tu peux peut-être raconter un peu cette petite histoire-là, comment c'est né, d'où ça vient, les fameux OKR?
Ben, oui, en effet, puis je pense que c'est ça la grande force de ce livre-là, donc John Doerr, Measure What Matters. La grande force de ce livre-là, c'est qu'il est très, très, très inspirationnel, et une bonne partie de ce livre-là qui parle de cette méthode de l'historique de la méthodologie. Donc, le départ avec Andy Grove, qui à ce moment-là, dans les années 70, qui est le CEO d'Intel, donc, et que John Doerr, à terme, va aller rejoindre l'équipe de Andy Grove chez Intel et va travailler avec cette méthodologie-là à partir de là.
Parce que, moi, c'est moi qui j'ai beaucoup de cheveux gris. J'ai connu l'époque où est-ce que les Motorola compétitionnaient Intel dans le monde du microprocesseur. Parce que, bon, au début, il n'y avait pas beaucoup de compagnies qui faisaient des microprocesseurs. Mais Intel s'est servi des OKR, donc Andy Grove, pour faire en sorte que Intel est devenu le leader a multiplié la valeur de sa compagnie par des milliers dans les dizaines d'années qui ont suivi, et complètement réussir à tasser Motorola, qui avait quand même technologiquement un produit aussi performant, mais peut-être des équipes moins bien alignées, puis c'est ce qui a fait que Intel a réussi à faire sa place. Donc, c'est la première chose qu'il nous explique dans le livre, là, comment Andy Grove a mis en place cette technique-là d'objectifs et de résultats mesurables.
Exact, avec l'opération que tu mentionnes, c'est l'opération Crush, en fait, qui avait mis en place pour justement Motorola, le nom dit bien. Quand on parle d'être inspirationnel et de d'envoyer un message qui est clair, c'est le titre le disait bien en partant. Puis en effet, ce que ça lui a permis, c'est d'aligner autant ses équipes de production pour créer un nouveau processeur avec des bons objectifs aussi sur quoi il allait se battre sur le terrain. Donc, c'était pas juste de dire « je vais avoir 10 000 unités de processeurs prêts pour telle date ». C'était « je veux qu'ils atteignent tel objectif, je veux qu'ils adressent telle problématique ou tel point sur lequel mon équipe marketing va pouvoir, dans le fond, aller se battre contre Motorola finalement ». Puis l'idée, c'était justement, en ayant mis ça en place, il s'est assuré que le focus de l'équipe, exemple, de marketing ou l'équipe des ventes était pour justement taper sur le bon clou, s'assurer qu'on allait avoir quelque chose qui est parfaitement aligné entre le message qui était pour être commercialisé et le chipset lui-même, ce qui était en fait le processeur, ce que lui-même était capable de produire. Et ça l'a permis, dans un laps de temps très court, dans le fond quelques mois, de renverser la vapeur. Ce que normalement, ben, il y aurait, si on avait suivi un flot de production standard, il y aurait eu, il y aurait créé les processeurs. Ensuite de ça, il y aurait fait l'étude, ces processeurs-là sont-tu, c'est quoi les capacités. Là, il y aurait eu une étude de marché par rapport aux compétiteurs. Là, il y aurait créé les dépliants, les affiches, les campagnes publicitaires. Puis ensuite de ça, il aurait été sur le terrain. Puis on s'entend, il se serait passé 12, 18, 18 mois facilement. Donc, il aurait perdu le momentum pour rattraper son marché. Donc, c'était l'alignement entre les différentes équipes, parce que c'est ça aussi, c'est pas une méthodologie qui est top-bottom, c'est une méthodologie qui est aussi pour aligner différentes équipes qui travaillent en parallèle sur les objectifs qui sont communs. Donc ça, ça a vraiment pu faire la démonstration que ça fonctionnait bien.
C'est drôle parce que tu mentionnes tout ça, puis on dirait qu'en 2020, c'est un petit peu le contraire, c'est AMD là qui release là de façon plus courante là des processeurs qui battent les processeurs d'Intel, mais bon, donc petit aparté là.
Ben faut dire qu'Andy Grove est plus chez Intel depuis plusieurs années là parce qu'il parce que lui il a vraiment mis en place ça, puis le fameux la personne qui écrit le livre John Doerr, lui s'est retrouvé à travailler chez Intel, a été formé à ces techniques-là. Puisqu'il était chez Intel, il a fait beaucoup d'argent, le monsieur Doerr. Et parce que moi, je veux encore plus expliquer comment c'est fabuleux, ces OKR-là. Au début des années 2000, ce monsieur John Doerr-là se retrouve à être un investisseur, un ange qui investit dans des compagnies. Puis il y a deux garçons peu connus qui vont l'approcher en disant « Voudrais-tu investir dans notre compagnie? » Notre compagnie s'appelle Google. Compagnie inconnue à l'époque, qui allait dans un marché qui semblait déjà saturé, faire un engin de recherche. Vous souvenez, à l'époque, il y avait AltaVista, en tout cas, il y avait Yahoo. En tout cas, on pouvait être un peu sceptique en disant comment peut-on révolutionner, mais bon, ils ont réussi à convaincre John Doerr qu'il y avait, eux autres, une technologie intéressante, mais ils ne savaient pas comment gérer. Donc, explique-nous donc, qu'est-ce qu'il a fait avec les gens de Google, ce monsieur Doerr-là?
Ben, en fait, il s'est présenté chez Google et il leur a, si on veut, imposé sa méthodologie, en fait.
Ouais, dis-moi, je vais investir, mais vous allez utiliser cette technique de gestion.
Exact. Puis lui-même, il s'est créé ses propres OKR, en fait, pour aller chez Google. Donc, lui-même, pour en faire la démonstration, il avait fait son propre OKR qui permettait de vendre l'idée, dans le fond, à ces deux gars-là de Google à ce moment-là. Puis, justement, l'idée a tellement fait de sens pour les deux propriétaires, en fait, de Google, qu'ils se sont investis dans cette technologie-là, dans cette méthode-là, et c'est encore utilisé aujourd'hui. Donc, les équipes aujourd'hui chez Google utilisent encore ça, le développement de produits utilise encore ça, et ça leur a permis, justement, de mettre en place, les nouvelles, aujourd'hui, YouTube aussi fonctionne avec ça par le fait même. Donc, YouTube s'est modernisé grâce à ça aussi. Chrome est né un peu grâce à cette méthode-là aussi et a pris de l'ampleur en fait grâce à cette méthodologie-là. Donc, John Doerr, étant venture capitaliste, va souvent avoir cette façon-là de faire, d'arriver dans les entreprises puis d'aller tout de suite implémenter. Ça vient avec le chèque, si on veut, d'aller implémenter la méthodologie.
Puis on voit là, que c'était assez profitable pour Google, puis c'est devenu une façon de pour eux autres qui est dans leur ADN maintenant au niveau de la gestion. Ça a influencé beaucoup d'autres compagnies en technologie dans la Silicon Valley et même à l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, chez Microsoft, c'est des techniques qui sont beaucoup utilisées. La fameuse fondation que Bill Gates a mis sur pied il y a maintenant une dizaine d'années utilise des OKR aussi. Il parle même dans le livre, il parle même pour on va être un peu jet set là, mais le fameux chanteur de U2 Bono, qui lui aussi a sur pied une fondation, utilise des OKR. Donc il y a beaucoup de d'exemples probants là, qui disent wow, ça semble être une technique pas banale.
Oui, exactement. Puis c'est très fort dans les entreprises, oui, Silicon Valley, mais de plus en plus aussi plus large. Puis le but vraiment là-dedans, c'est justement de faire contribuer les gens. Souvent, les gens peuvent se tromper en pensant que c'est une méthodologie qui est très top ou to bottom, parce que bon, comme tantôt, je donnais l'exemple où le CA va se rencontrer, va donner des objectifs, puis on va faire découler ça dans les différentes équipes après ça. Mais c'est aussi une méthodologie qui permet aux gens de contribuer, parce que si tu connais l'objectif de ton équipe ou de l'équipe qui passe devant toi ou de bon, ta direction, les propriétaires d'entreprise, tu es capable, toi, en étant donné qu'ils te donnent pas la solution, ils disent pas fais ça hors contexte ou tu sais va me faire tel déploiement ou fais ma intégration de telle technologie dans tes projets à partir de maintenant ou ainsi de suite. Ça amène l'idée vraiment que tu peux contribuer parce que tu regardes l'objectif à atteindre, le résultat et le bénéfice que l'entreprise va atteindre et c'est à toi de trouver la marche à suivre pour contribuer à ta façon. Et ça se fait justement en processus inverse où on va remonter l'information où les gens vont créer leurs propres OKR basés sur les objectifs que leur équipe va s'être fixé et vont faire la rétro avec le PO de l'équipe, par exemple, ou avec le gestionnaire de projet de cette équipe-là. Il va faire remonter l'information.
Mais Louis-David, tout à l'heure, tu as mentionné des exemples de métriques, peut-être plus au niveau de l'entreprise, mais au niveau des équipes, ça ressemblerait à quoi, par exemple, un exemple?
Ben, si on regarde, justement dans nos OKR, si on veut qu'on vient de finir le cycle là, par rapport au COVID, maintenant on considère que c'est notre nouvelle normale, donc ça fait partie d'un cycle d'urgence. On est retombé sur nos cycles standards. Maintenant les objectifs que j'ai mentionnés tantôt, donc avoir 100% des médians en emploi et avec leurs revenus. On a amené ça après ça dans les équipes de vente et de marketing en leur disant ben j'ai besoin d'aller chercher tant de revenus en fait dans cette période-là, de passer de tant de revenus à tant de revenus pour nous permettre de maintenir ces gens-là en emploi. Et puis si on regarde les équipes marketing, ben moi j'ai des gens dans mon équipe, par exemple, que tout de suite, à la place de faire la prestation client, ils se sont dirigés vers la prestation, si on veut, de vente, donc pour Admedia. Ont recentré, eux-mêmes se sont mis des objectifs qui ressemblaient, exemple, à redévelopper X nombre de revenus. Là, je fais attention aux chiffres que je donne. Donc, passer de X revenus à Y revenus dans leur propre dossier. Donc, eux, ça leur a obligé d'aller créer des nouvelles campagnes, leur to-do, en fait, parce qu'à un moment donné, tu descends ça en liste de tâches, assurément. Ben eux-mêmes se sont mobilisés pour aller faire des démarches avec des nouveaux clients, d'aller trouver des nouveaux canaux, tu sais, par exemple, des démarches en ligne pour répondre à des appels d'offres en ligne, ce genre de choses-là. Donc, les équipes, eux, vont le genre d'OKR que eux vont avoir peut ressembler à augmenter le nombre de revenus de X à Y dans mes comptes, par exemple. Puis, leur key results va être, par exemple, de développer 3 nouvelles campagnes qui vont closer X nombre de leads en l'arrière des 2 prochaines semaines, par exemple. Donc, ça va être le genre de KPI que eux vont se mesurer. Et encore une fois, on essaie de parler des bénéfices. Donc, générer des leads est plus important que de lancer des campagnes. Donc, si le KPI se serait laissé à lancer 3 nouvelles campagnes, OK, mais ça va me donner quoi une fois que je vais avoir fait ça? Une fois que je vais avoir lancé mes 3 nouvelles campagnes, what's in it for me? Comment ça contribue à l'entreprise? Donc, faut absolument, si on veut avoir un focus sur et avoir X nombre de leads qualifiés au bout de ce QR-là si on veut s'assurer que ça génère un bénéfice pour l'entreprise.
Donc, si on revient un peu en lien, ça n'a peut-être rien à voir avec ce que vous avez vécu, mais bon, on veut garder nos employés, ça veut dire qu'on veut garder assez de revenus pour pas se retrouver à devoir remercier des employés. Bon, dans les domaines comme la technologie, c'était peut-être moins criant, mais mettons, si on est dans la restauration et tout, ben, si on avait fait ça, ça peut-être se dire, ah, ben, je vais faire maintenant des plats à emporter pour générer des revenus, pour au moins que je sois capable de garder mes employés clés. Bon, dans la restauration, c'était peut-être pas garder 100% des revenus, mais c'était peut-être de garder mes employés clés. Puis on l'a vu, beaucoup d'entreprises en restauration se sont mis à faire des plats pour emporter en se disant, ben, au moins, ça va me générer des revenus. Puis ça aurait été une façon de se dire, ah, l'objectif initial, c'était garder, je sais pas moi, des 10 employés que je peux pas me passer là, pour mon restaurant. Et puis l'objectif peut-être de l'équipe qui faisait des plats pour emporter, ça dit, ben nous, on va augmenter nos ventes. Puis donc, c'est ce qui fait que c'est bottom-up. C'est-à-dire que ça peut l'intrant peut venir par en bas parce que les employés sur le terrain, eux, peuvent avoir des super bonnes idées qu'ils vont exprimer aussi en termes d'objectifs et de bénéfices mesurables.
Exactement. Puis d'où ça a tellement bien fonctionné dans le fait que là, on a été obligé, entre guillemets, d'embaucher 11 personnes à la place. Donc, on a gardé 100% de notre monde et embauché 11 personnes. Mm-hmm. Donc, ça a super bien fonctionné, mais parce que la contribution de l'équipe était au rendez-vous. Puis, quand on a des objectifs comme ceux-là, puis que tout le monde les voit, mais ça l'a permis, exemple, aux équipes RH, mais eux, ils sont tournés vers comment je fais pour aller chercher un maximum de est-ce qu'il existe des subventions pour garder les gens en emploi, ainsi de suite. Donc, eux sont partis dans ce volet-là pour aller générer, en fait, minimiser les pertes, donc pas nécessairement des revenus, mais aller chercher les subventions qu'on avait droit, exemple, ce genre de choses-là. Les équipes des ventes, eux, se sont tournées vers des nouveaux canaux pour des ventes. Donc, tout le monde a pu contribuer à ces objectifs-là de façon différente, mais en ramant tout le monde pour le même bénéfice qui est connu. Et c'est pour ça qu'on a réussi à avoir, je touche du bois en disant ça, mais aujourd'hui, beaucoup de succès à travers la crise qu'on a vécue quand même. Donc, parce qu'on a réussi à s'aligner et communiquer bien avec les équipes et tout le monde ramé vers les mêmes bénéfices communs.
Parce que c'est un petit peu top-down, là, ce que tu nous expliques. C'est-à-dire que au niveau de l'entreprise, il y a comme des grands objectifs. Puis quand on descend d'un niveau, par exemple, au niveau de certaines équipes, là, selon ces objectifs-là, on va créer nos propres objectifs.
Oui, tout à fait. Eux vont créer leurs propres objectifs. Puis c'est pour ça, si on regarde, chaque équipe, grosso modo, devrait avoir entre 3 et 5 objectifs maximum. Et après ça, leur set de 3 à 5 QR aussi. C'est à peu près ça la règle générale pour les appliquer. Puis l'idée, justement, c'est entre 3 et 5 objectifs. Il y en a un ou deux qui va être vraiment aligné avec le volet business, on veut, ou qui va venir du supérieur ou de l'étage supérieur. Et le restant, dans le fond, devrait venir de l'équipe parce que eux-mêmes connaissent les choses à améliorer dans l'équipe et dans un projet, par exemple, dans un produit. Donc, il y a une portion qui vient de eux aussi, assurément. Et ils doivent absolument garder une place pour cette créativité-là et cette participation-là dans ces OKR-là. Pourvu qu'ils soient quand même, il y a quand même, de part et d'autre, là, quand c'est top-bottom, il faut qu'ils soient acceptés par les équipes. Donc, il y a une loupe de rétro qui se fait là, et l'inverse, quand ça vient des bottom-up, mais il faut que ça soit aussi accepté par l'entreprise, il faut quand même créer une certaine alignement.
J'ai une question pour toi, Louis-David. On parle là de, bon, qu'il y a des objectifs qui sont fixés par la direction, donc qui vont être plus top-down, c'est-à-dire l'objectif d'affaires.
Ouais.
Après ça, il y a des objectifs que les équipes se fixent qui, en tout cas, ultimement, là, sont le plus alignés avec des objectifs d'affaires. Chez Intel, à l'époque, Andy Grove lui demandait même à chaque personne personnellement dans la compagnie de se fixer ses objectifs à eux, qui forcément devaient aussi s'aligner avec les objectifs d'affaires, mais qui pouvaient aussi avoir d'autres objectifs qui pouvaient sembler moins alignés, mais qui pouvaient, par exemple, développer des nouvelles expertises ou des nouvelles choses. Est-ce que vous avez ça aussi chez vous? C'est-à-dire que les gens eux-mêmes se fixent leurs objectifs à eux?
Ben, en ce moment, on est en implémentation de ça, mais oui, tout à fait, puis ça fait partie de la méthode, puis ça vient aussi avec la méthode, en fait, CFR, qui est aussi abordée dans le livre avec l'histoire d'Adobe, dans ce cas-là aussi, où ce que c'est Conversation...
Bon, parce que Parce qu'on l'a pas dit, chez Adobe, ils utilisent ça aussi. Donc, si vous commencez à vous intéresser au OKR, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de compagnies. Moi, je suis en train de lire le livre, là, puis là, je lisais le chapitre où est-ce qu'il parlait d'Intuit. Ouais. Puis là, tu te rends compte, ah, ben, qu'un Intuit, qui est comme bon, ça fait 40 ans qu'ils résistent à toutes les. Il y a beaucoup de compagnies qui ont essayé de prendre leur part de marché, puis ils n'ont jamais réussi. Pourquoi? Parce que Intuit, bon, sont bien gérés. Mais on découvre aussi qu'ils utilisent cette technique-là depuis plusieurs années. C'est comme ça semble pas une technique si mauvaise que ça. Donc là, tu dis vous êtes à l'étape, vous autres, de commencer à essayer de faire en sorte que même les gens, d'un point de vue personnel, fixent leurs objectifs.
Oui, exact. Dans le fond, c'est la méthode CFR, donc le Conversation Feedback and Recognition, qui vont venir un peu appuyer dans le même ordre d'idée. Cette méthodologie-là, ça vient avec des fréquences un peu différentes. Les rituels sont un peu différents en fait que les OKR, et c'est vraiment une approche de one-on-one, en fait, qu'on veut avoir. C'est vraiment intéressant, ceux qui veulent regarder un petit peu. Le livre, en fait, raconte un peu plus l'histoire. Puis des fois, c'est ça qui est, si je veux être un petit peu critique du livre, c'est qu'ils sont bons pour raconter beaucoup l'histoire, mais et c'est très bon pour faire sortir le what's in it for me, en fait, comment je peux bénéficier de cette méthode-là. Comment l'appliquer, c'est un petit peu moins ça, des fois, dans le livre. Là, ça laisse beaucoup de place à interprétation, et c'est beaucoup de travail pour faire l'implémentation, parce qu'il y a beaucoup de pièges, en fait, une fois qu'on est rendu là. Mais oui, en effet, c'est cette méthode-là qu'on amène pour les gens, et ces gens-là, les médias vont fixer leurs propres objectifs et leurs propres mesures de performance là-dessus, et on va avoir des cycles de rétro entre 4 et 6 semaines pour les suivis, et au trimestre pour revoir si on a bien atteint. Et des fois, ça nous permet ce qu'on appelle le « geek out », time, en fait, le temps où ce que les gens ont un peu comme chez Google, là, où ce qu'il y a une portion de ton temps qui est ouvert à faire ce que tu veux, en fait, quelque chose qui te passionne pourvu que ça contribue à l'apprentissage ou de près ou de loin avec l'entreprise. Donc, ça me permet de mesurer justement comment ce temps de geek out là est pertinent pour la personne. Et c'est bien important de dire que c'est pour la personne parce que c'est pas les OKR, c'est pas une mesure de performance d'un employé lui-même. Là. Le but, c'est pas de faire en sorte que les gens, parce qu'ils ont atteint 100% de leurs OKR cette année, vont avoir une meilleure augmentation de salaire, là, si on veut, parce que ça peut avoir un effet assez pervers dans ce mode-là, mais d'avoir vraiment plus un apprentissage de la personne et voir comment est-ce qu'eux contribuent pour eux-mêmes et est-ce que ça peut contribuer à l'entreprise, en fait, ce qu'ils vont avoir appris dans ces cycles.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que c'est comme un processus d'amélioration continue où pas juste l'organisation, mais les employés, puis moi je pense que c'est les employés qui sont le plus important, pas avant même l'organisation, où les employés sont au cœur de l'amélioration. C'est-à-dire que si tous les employés s'améliorent, ben ultimement, tu as des êtres plus heureux, plus satisfaits d'eux-mêmes, puis t'as ultimement bon, pas juste une meilleure organisation, mais le monde lui-même, la vie lui-même est plus plaisante pour tout le monde.
Ben, le but d'avoir de travailler à quelque part, en fait, c'est que tu vas avoir un sens. Tu sais, souvent, c'est des gens qui sont extrêmement passionnés, puis on engage dans ce sens-là. Puis, ils arrivent avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup, tu sais, sont très passionnés quand ils arrivent de ce qu'ils font, puis sont tous contents d'arriver dans une nouvelle boîte. Puis l'idée, c'est de leur faire. On devient passionné parce qu'on, souvent, on va en informatique dans ce domaine-là parce que c'est très concret, on a l'impression de faire du problem solving, de résoudre des choses. Donc, le but avec les OKR, ce qui est intéressant, c'est plutôt que de dire, si on veut, de parler justement, implémente telle solution, fais telle chose, fais telle... À la place, tu donnes un sens d'un purpose, comme je disais, ou de certaines clarté de pourquoi ce que tu fais est important pour l'entreprise, et je te laisse trouver comment mieux contribuer possible pour cette entreprise-là. Donc, nécessairement, ça devient quelque chose qui souvent est très porteur pour ces gens-là, c'est très gratifiant aussi. Ça amène beaucoup de clarté. Pourquoi je fais ça? Tu sais, des fois, il y a des choses qui sont un petit peu moins le fun à faire dans une implémentation d'un nouveau système comptable, exemple, dans une entreprise ou quelque chose comme ça. Mais au moins, ça donne un sens de pourquoi je le fais, pourquoi c'est bénéfique pour l'entreprise. Donc, clairement, ça crée de l'enthousiasme et ça nourrit cette passion-là. Donc, c'est nécessairement quelque chose de hyper, moi, agréable pour un employé, assurément.
Puis la stratégie des petits pas, et bienvenue, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de partir tout azimut, là. Comme tu disais au début, ça peut être juste avec un chiffrier Excel ou un wiki, on documente, et on n'a pas besoin de partir aussi avec les objectifs personnels, on peut partir juste par équipe, dans l'organisation, les équipes dans un premier temps, Donc là, on en parle, ça semble très positif, mais avez-vous vécu soit des échecs ou des difficultés? Là, c'est quoi les défis que vous avez rencontrés qui fait que qu'on peut partager avec nos auditeurs?
Ben oui, ben tout à fait, parce que c'est comme je disais tantôt, c'est tu sors du livre, si on lit John Doerr, on regarde ses TED Talks ou ses différentes conférences qu'il fait, tu sors de là, t'es hyper motivé, tu dis « wow, c'est ça que ça prend, ça va régler tous mes problèmes, ça va générer du focus, de l'alignement, tu sais, des fois, alors, justement, t'essaies d'implémenter quelque chose, puis là, t'attends après une autre équipe qui a fini d'implanter telle chose, mais c'est pas, eux autres, c'est sur le back burner, parce que c'est pas aussi prioritaire que ce que toi, ce serait, puis ainsi de suite, donc là, tu t'imagines tout ça, puis ça va être parfait. » Comment s'implémenter ça, puis déjà juste de se familiariser avec c'est quoi un bon objectif, c'est quoi un bon QR. Souvent, les gens vont se ramasser avec beaucoup des listes de to-do dans les QR, là. Justement, embaucher 3 personnes, lancer 2 campagnes, faire tester mon code par deux nouvelles personnes, sauf que c'est des to-do, OK, parfait, il suffit de prendre des rendez-vous avec des gens, ça va être fait, mais tu n'as pas nécessairement généré de bénéfices. Fait. Ça, souvent, puis même dans les différentes formations qu'on va prendre dans les différents livres, on parle d'un au moins 4 à 5 cycles là, où ce que tu vas, c'est un peu comme quand tu apprends à pédaler, ça se peut que tu tombes une fois ou deux de ton vélo. Donc, 4 à 5 cycles là, trimestriels, donc à peu près 1 an, là, si c'est fait sérieusement, avant que tu te sentes vraiment à l'aise, puis que tu gagnes tout, il n'y a plus tant de problèmes, puis il n'y a plus tant de friction. Mais somme toute, en général, dans le fond, il y a ce volet-là de bien setter des bons objectifs, des bons QR, c'est quelque chose d'important. Et l'autre chose qu'on voit souvent, c'est on a nos OKR qui nous génèrent une liste de choses à faire, puis on a notre to-do quotidien. Puis malheureusement, comme on est, c'est rare, nous, on est une compagnie en croissance aussi, puis si on n'est pas les seuls non plus, la plupart des entreprises vont faire ces premières gaffes-là dans le premier cycle, c'est ben, j'ai mes to-do d'OKR, puis j'ai mes to-do quotidien. Puis c'est sûr que les to-do quotidiens, souvent, c'est des feux à éteindre. Donc, tu vas te ramasser à la fin de ton trimestre, tu vas te dire, ouais, finalement, j'ai mis 4 heures à résoudre des OKR, mais j'ai fait tout mes feux qui brûlaient au quotidien. En fait, c'est ça que j'ai fait tout le restant de ma semaine. Puis, j'ai pas généré l'attraction que j'aurais voulu ou j'aurais pas, justement, contribué comme j'aurais voulu au bénéfice de l'entreprise ou de l'équipe pour laquelle je travaille. Puis ça, c'est une autre chose qu'on voit souvent. C'est, ça demande un commitment puis une conscience, en fait, de ce commitment-là, d'où l'importance de la rétroaction fréquente. Pour tenir les gens, si on veut, accountable à le faire. Là.
Puis aussi, il y a des questions se posent aussi. Est-ce que tes to-do quotidiens sont si alignés que ça avec ce qui est stratégique pour l'organisation? Parce qu'on a des feux éteints, mais des fois, la question se pose, c'est ce feu-là, peut-être je peux décider de le laisser brûler parce que de toute façon, il n'est pas du tout aligné avec nous autres. Puis il peut brûler dans la forêt. Moi, cette forêt-là, elle ne me préoccupe pas pantoute. Puis ça peut sembler un gros dommage qu'un feu, mais c'est pas si dramatique que ça pour l'organisation.
Non, exactement. Est-ce que ça nourrit, est-ce que ce que je suis en train de faire nourrit les bénéfices attendus pour l'entreprise ou les objectifs vraiment d'affaires de l'entreprise pour l'année en cours ou le trimestre en cours? Puis en effet, des fois, on se rend compte là, que peut-être celui-là, je devrais le reprioriser puis lui le mettre dans mon backlog et ramener lui en avant-plan parce que c'est lui qui prime pour l'ensemble de l'entreprise. Donc, nécessairement, ça, à force de faire ces rétros-là, oui, ça nous permet de faire cette discrimination-là de tâches qui, des fois, on subit plutôt que bien planifier, en fait.
Mm-hmm. Écoute, Louis-David, on discute des OKR. Là, il y a nos auditeurs qui disent, j'ose espérer qu'il y a certains de nos auditeurs qui disent, waouh, c'est intéressant cette affaire-là. On a donné comme référence le livre. Est-ce que tu as d'autres... tu sais, quelqu'un qui veut débuter, là, qu'est-ce que tu recommanderais outre la lecture du livre? Est-ce que tu as des liens, des présentations? Nous, on promet toutes les URL là, sur la page, là.
Oui, ben en fait, je pense que le plus facile à commencer, si vous vous dites, ça pourrait m'intéresser, mais j'ai besoin d'être convaincu encore un peu, il y a un TED Talk, en fait, de John Doerr, donc directement de l'évangéliste primaire, qui est « Why the secret to success is setting the right goals ». Donc, c'est un TED Talk de 2018. Je pense que c'est la bonne place à commencer. Puis, par la suite, si ça vous allume ou ça vous intéresse, mais c'est sûr que à fin des fins, le livre de John Doerr, « Measure What Matters », va être une bonne place à commencer. Mais c'est vraiment un livre d'évangélisation. Donc, ça vous allez sortir de là inspiré. Mais après ça, vous allez vous rester un petit peu sur comment je fais pour l'implémenter. Moi, je suis un grand fan d'Audible, donc c'est un livre qui prend à peu près 8 heures à écouter. grosso modo. Sinon, il y a des choses qui sont un petit peu plus en mode storytelling qui existent. Donc, le livre Radical Focus, Achieving Your Most Important Goals with Objectives and Key Results, qui dure à peu près 4 heures, lui, dans ce cas-là. Il est plus en mode, on raconte une histoire d'une startup, dans le fond. Donc, pour quelqu'un qui aime moins les livres théoriques, si on veut, ou qui peut sentir que 8 heures, c'est trop long, ben celui-là, c'est en 4 heures et est en mode un peu plus histoire, si on veut.
Okay.
Sinon, assurément que 45 minutes de summary and analysis of Measure What Matters, donc c'est vraiment un 45 minutes condensé de ce que vous allez apprendre dans le livre de Measure What Matters, pourrait valoir la peine comme introduction, assurément.
OK, ça c'est bon. Moi, je vais ajouter, parce que l'équipe qui fait Azure DevOps, donc l'équipe qui est derrière le produit Azure DevOps depuis maintenant 2 ans, 3 ans, utilise des OKR. Donc, c'est comme ça. Moi, j'étais un peu familiarisé avec ça parce que, étant un MVP, ils nous ont expliqué qu'est-ce qu'ils faisaient avec les OKR. Puis, pour le bénéfice de nos auditeurs, une des personnes qui était derrière tout ce qui était le champion, parce qu'on produisait un mot sur le fait que c'est important d'avoir un berger ou un champion là, pour aider à l'adoption. Donc, cette personne-là a fait une entrevue que je pourrais mettre le lien là, où est-ce qu'il explique en 30-40 minutes ce qu'ils font, puis comment ils sont allés avec la plus simple expression, quelque chose de super simple, sans trop se casser les nénettes, comme on dirait en bon québécois. Ça m'amène à la question d'avoir un berger ou un champion. Chez Anmedia, je crois que c'est toi qui porte le chapeau de berger. Est-ce que je me trompe?
Oui, exactement. Puis justement, je t'ai cherché de la certification spécifique là, pour ça. Puis vraiment des bonnes sources d'informations aussi pour comment l'implémenter. Ça vient souvent de ce genre de certification-là. Souvent, sont offerts par des personnes qui vendent des plateformes. Donc, il faut les choisir comme il faut si tu veux pas juste avoir un 6 heures de sales pitch. Mais celle que moi j'ai préférée, en fait, c'est celle de Workboard, justement, qui fait une certification pour des shepherds à l'interne dans les équipes. Et c'est une formation qui est très axée sur la mise en place et pas vraiment sur le sales pitch de la plateforme. Donc ça, c'est très apprécié. Donc ça pourrait être une belle façon de commencer. Mais clairement, ça prend quelqu'un qui va agir comme coach, qui va pousser les gens à s'investir ou à aller plus loin un peu dans leur QR ou dans leurs objectifs. Donc, clairement, ça vaut la peine. Et quelqu'un qui va être un peu le gardien des cycles que je disais tantôt, donc le annuel, trimestriel, mensuel, hebdomadaire par la suite.
Un peu comme il existe un Scrum Master pour la mise en place du processus Scrum, bien là, ça prend... Puis là, ils l'ont pas appelé le OKR Master, mais on utilise souvent le terme anglophone shepherd ou berger là, pour décrire ça. Écoute, je pense que ça fait un bon survol là, pour nos auditeurs. Mais moi, en terminant, j'aimerais juste savoir, là, vous en êtes où avec ça chez Anmedia? C'est comment tu entrevois le futur? Tu nous as parlé que vous voulez les implanter au niveau personnel, donc les OKR pour les personnes. C'est la prochaine étape, ça, ou vous avez même d'autres objectifs?
Non, c'est vraiment la prochaine étape. On est rendu, oui, bon, toujours arrimer les équipes à l'utiliser. Donc, une implémentation qui se passe bien, souvent, c'est une implémentation qui est vraiment... vertical dans le sens où on va vouloir prendre une équipe qui touche tout au même objectif, puis c'est eux qu'on implémente et pas faire la gaffe d'y aller horizontal, exemple avec juste la direction ou juste le middle management ou juste les équipes. Souvent, on veut avoir quelque chose qui, quitte à faire moins horizontal, mais avoir quelque chose de plus complexe, on veut avoir un maximum de bénéfices. Donc là, l'idée, c'est d'étendre ça à plus d'équipes. Ça, c'est notre prochaine étape. Donc, de finir, si on veut, d'implémenter ça aux différentes équipes et d'aller vers les CFR / OKR personnels qu'on se disait. C'est vraiment les deux prochains objectifs à atteindre de notre côté. Là.
Puis je sais, pour avoir discuté avec un de tes partenaires chez Anmedia, Patrick Bélanger, pour pas le nommer, que vous voulez aussi jumeler les OKR avec l'approche Zone to Win.
Oui, tout à fait.
Donc, on va, nous autres, se céduler un podcast avec Patrick pour en parler. Donc, on va pouvoir... Mais j'imagine que c'est aussi une des choses que vous voulez dans le futur. Là, jumeler ça avec cette approche-là, Zone to Win, puis voir dans quelle mesure c'est gagnant-gagnant là, d'utiliser cette approche-là.
Oui, exact. On pense que ça va nous aider à créer davantage de focus encore et davantage d'aliment dans les différentes expertises et line of business, si on veut, de Anmedia. Donc, on va... On a Zone to Win, qui est une méthode qu'on utilise déjà dans certaines équipes, justement, et on veut l'amener justement plus global à l'entreprise, et on veut arrimer ça avec les OKR pour garder nos méthodes de reddition et de rétroaction et de bénéfices par les individus. Donc, c'est le prochain maillage. Ça va être un bon défi, je pense, mais Patrick étant le shepherd, si on veut, de Zone to Win pour nous, ça va être un bon travail d'équipe à faire là-dessus, mais on est confiant que ça va créer plus de synergie puis d'animation encore.
Puis, en terminant, là, il y a nos auditeurs, ils peuvent être localisés au Québec, Zen Media, wow, ça a l'air intéressant comme compagnie. Donc, si vous avez embauché 11 000 personnes, donc s'il y a toujours de... j'imagine, mais pour ceux qui pourraient avoir l'intérêt, gênez-vous pas, ça semble une entreprise qui est à la fine pointe des nouvelles approches de gestion. Donc ça, c'est toujours bien là, de voir que l'innovation existe, pas juste dans les grandes villes, mais même aussi en région, là. Puis c'est vrai aussi en France, c'est vrai aussi en Belgique. C'est pas juste dans les grands centres qu'il y a des organisations qui sont c'est très plaisant de travailler chez eux, puis ils n'ont pas besoin d'être localisés au centre-ville d'une grande ville.
Là. Non, en effet, on cherche encore pas mal dans tous les domaines possibles qui sont disponibles chez Nmedia. Donc si ça touche aux technologies, il devrait avoir un poste d'ouvert chez nous, nécessairement de la gestion de projet jusqu'à UX au design, programmation, DBA, ainsi de suite. Donc oui, n'hésitez pas.
On fait même de la publicité, donc.
C'est pas de problème, c'est très apprécié.
Pour ça, merci, parce que je pense qu'il y a un bon survol de ce qui était les OKR, mm-hmm. que ça va aider nos auditeurs. Si jamais ils entendent parler que l'organisation s'intéresse aux OKR, ben, en écoutant l'émission, ils auront un survol de qu'est-ce que c'est. Puis si jamais vous n'avez pas entendu ça, peut-être en parler à vos gestionnaires, dire, OKR, peut-être ça serait intéressant chez nous. Donc, on te remercie beaucoup, Louis-David.
Oui, merci.
Merci à vous.
On va souhaiter du succès, encore plus de succès. Puis, d'ici là, nous, on est en période estivale. Cette émission-là va être publiée probablement au mois d'août, donc c'est encore l'été. On va souhaiter à nos auditeurs de profiter de l'été au maximum, du beau temps si vous êtes dans la partie nordique. C'est sûr que si vous êtes de l'autre côté de la planète, ben là, vous, c'est l'hiver. Donc...
Je pense pas qu'on a pas beaucoup d'auditoires francophones en Australie.
De voir comment il y a du monde qui nous écoute un peu partout. Sur ça, on va souhaiter justement bonne programmation à nos auditeurs. On vous revoit le mois prochain. À la prochaine.
Merci, au revoir. Digital Studio Talk.